Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Libre Ensemble, les rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Pilar Arcas au micro. Le thème de l'émission d'aujourd'hui est « La morale laïque, une forme de spiritualité ». Jacques Secher, bonjour et merci d'être parmi nous.
Bonjour.
Alors Jacques Secher, vous êtes professeur émérite de philosophie et d'esthétique à l'Université libre de Bruxelles, mais aussi écrivain, dramaturge, acteur de théâtre et de cinéma, je pense qu'on peut le dire. Votre passion philosophique, c'est Nietzsche et Lévinas. Votre passion littéraire, Beckett. Vous avez été mis à la porte de l'Athénée Léon Lepage. Vous n'êtes pas le seul, mais vous, par contre, vous avez enseigné pendant 35 ans le français, la morale laïque. En 69, vous avez été nommé chargé de conférence. Vous avez passé votre thèse, ensuite doctorat sur Nietzsche, Pascal et l'oubli. Et après, vous êtes devenu professeur ordinaire à l'époque de philosophie à l'ULB. Aujourd'hui, vous êtes donc retraité et vous avez l'air d'être très heureux de ce nouvel emploi du temps. Vous êtes à l'origine d'une revue qui s'appelle A, comme A, c'est étonnant. Il s'agit d'une revue d'éthique et d'esthétique qui paraissait au Cercle d'Art à Paris. Voilà, on a tracé un peu vite fait votre parcours et votre parcours professionnel, mais aussi un peu de loisirs. Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire la morale laïque, virgule, une forme de spiritualité, je voulais vous entendre sur ceci. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, repréciser ce que signifie spiritualité et spiritualisme ? Parce que, d'après les informations que j'ai, la spiritualité serait plutôt un ensemble de croyances concernant la vie religieuse, et le spiritualisme, plutôt une doctrine philosophique.
Oui, écoutez, je n'aime pas beaucoup le mot spiritualité. Parce que, comme vous savez, dans spiritualité, il y a spiritus. Et l'esprit porte assez logiquement vers une conception religieuse. Donc ce mot est connoté pour moi religieusement. Et je préfère le mot humanisation que le mot spiritualité.
On va peut-être changer le titre de notre émission, mais on va quand même essayer de donner chair à ce que pourrait être une spiritualité laïque en votre présence. Et pourriez-vous d'ailleurs maintenant répondre à la question suivante : la spiritualité laïque existe-t-elle pour vous ? Même si vous n'êtes pas amoureux de ce terme.
D'une façon générale, je n'aime pas les articles définis. Là, le, les. Alors je dirais, des spiritualités laïques existent. D'ailleurs, la laïcité ne peut pas se comprendre pour moi sans un pluriel. Elle est naturellement plurielle. Et donc il y a des spiritualités, parfois concurrentes, très différentes, avec un point commun. Et le point commun, ce serait l'idée qu'il n'y a pas de péché, qu'il n'y a pas de salut, qu'il n'y a pas de transcendance, qu'il n'y a que l'immanence, qu'il y a qu'ici-bas. Alors comment on vit seul et avec ici-bas, le temps de notre vie? Ça, c'est l'immanence laïque. Mais il y a des immanences, il y a des manières de répondre. Ce serait le point commun à tout ce que vous appelez les spiritualités laïques.
Est-ce que vous pensez qu'une des conditions de la spiritualité serait d'accepter des limites à la connaissance humaine et donc à l'idée qu'une part de vérité de la réalité restera à jamais insondable et inaccessible?
Oui, moi j'aime bien, comme vous avez dit, que j'avais que Nietzsche est un de mes philosophes préférés. Il y a une phrase de Nietzsche que j'aime bien qui est « J'aime la non-connaissance de l'avenir ». Et donc il y a un mystère laïque, c'est pas Dieu. Le mystère laïque, c'est la vie même. C'est-à-dire, il y a une richesse, il y a quelque chose qu'on approche, on a des connaissances, heureusement, scientifiques, sociologiques, de tout ordre, psychanalytiques, mais reste quand même le merveilleux mystère de la vie. Et ça, ça n'a rien de religieux. C'est plutôt le sentiment d'admiration et en même temps de peur que ce soit perdu, que ce soit détruit. Donc c'est en même temps l'adhésion à et le combat à mener pour que la nature, pour que les sociétés, pour que l'homme ne soit pas dégradé, ne soit pas plus ou moins et très vite détruit. C'est une menace très, très réelle, aujourd'hui plus qu'hier et qu'avant-hier.
Mystère laïque, vous avez prononcé ce mot-là. Comment est-ce qu'on pourrait inventer cette spiritualité laïque autour, par exemple, de ce mystère, entre autres? Et comment est-ce que ces spiritualités peuvent trouver leur propre sens du sacré et comment ces différentes images, ces différents supports pourraient venir nourrir une spiritualité laïque.
Bon, alors à ce moment-là, je crois qu'une notion fondamentale, c'est la notion de la généalogie et donc de l'histoire. Je crois qu'une société va mal quand elle oublie son histoire. Et spécialement ces spiritualités qui l'ont formée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Je suis tout à fait athée, mais jamais je vais dire que Dieu n'est pas important. Il l'est pour le meilleur et pour le pire. L'image de Dieu a fondé des croyances, l'art, la littérature, enfin, très très riche, et en même temps des choses épouvantables. Donc, je distinguerai la croyance en et l'idée d'une généalogie et d'une connaissance de cela. C'est pourquoi, on y reviendra peut-être, un cours de philosophie qui intégrerait la connaissance non catéchisante des religions et des laïcités serait fondamentale. Je crois que beaucoup de catholiques ne connaissent plus leur religion. Que dire de l'islam qui malheureusement ignore, beaucoup ignorent complètement leur religion. S'ils la connaissaient mieux, peut-être qu'il n'y aurait pas les débordements terribles que nous connaissons maintenant. Donc, spiritualité et connaissance vont ensemble. Connaissance de nos origines. Comment ils nous ont formés, les religions, les philosophies, les sciences, bien entendu, la politique, les politiques. Et donc, si on n'a pas le sens de nos racines, si on ne les connaît pas, évidemment, ce sera très compliqué d'inventer un sens nouveau, nourri de tout ce qu'il y a eu avant. Le passé, formateur d'avenir. C'est pas du tout passéiste, mais c'est comment...
L'épuiser dans les racines.
Comment réinventer à partir de ça. Donc, je crois que vraiment, la connaissance est fondamentale.
Alors, je lisais les laïcs, les rituels et la spiritualité, qui est un ouvrage édité par La Pensée des Hommes aux éditions Espace de Liberté. Et j'entendais M. Kulvaritis qui nous parlait. C'est lui qui pose la question. C'est pour ça que je me permets de la poser. Et sa question était la suivante. Quel irrationnel pour la spiritualité laïque, comment, on a parlé du sacré, de comment, non pas s'inventer un sacré, mais comment aller chercher, puiser, nourrir cette spiritualité. Et désormais, Kulvaritis pose la question de l'irrationnel. Alors, je sais que la pensée athée est par essence tout à fait rationnelle.
Non, écoutez, moi je ne pense pas, c'est une pensée athée. Je n'aime pas le mot irrationnel. Je crois que... J'avais vu l'autre jour à la télévision, dans une émission scientifique, Matière grise, l'entretien d'un professeur de Los Angeles dans un institut qui s'appelle Institut de l'étude du cerveau et de la création. Et il expliquait que le cerveau, d'après lui, est une machine enregistreuse qui envoie après, quand il est stimulé, des réponses. Et que les émotions, l'affectivité, fait partie de la pensée. C'est pas à part. Très longtemps, les philosophes, et bien sûr les religieux, ont pris en suspicion l'affectif, l'essence qui nous trompe, l'affectivité qui nous trompe. C'est Nietzsche qui rétablit les choses, c'est le perspectivisme. Il y a la raison, bien entendu, fondamentale, il y a aussi les sentiments, il y a l'affectivité, il y a l'imaginaire, et il y a le corps, qui pour Spinoza déjà est un corps pensant, chez Nietzsche aussi. Et donc, c'est réintroduire le corps, l'affectif et l'imaginaire dans la connaissance n'est pas irrationnel. C'est ce que Apollinaire appelle la raison ardente et pas la raison desséchée. Je ferai une différence entre une raison étroite, étriquée, positiviste, disons, et une raison ouverte, bien entendu, à tout ce qui est humain et qui ne m'est pas étranger.
D'accord. Puisque vous pensez justement, pour vous parler de ce mot de sèche, de sec, de sécheresse, certains pensent qu'à force de scepticisme, voire parfois même de scepticisme radical, comme de vouloir exercer sa tolérance et sa liberté envers et contre tout, au détriment, par exemple, on en parlait de l'intuition, on ne fasse de cette spiritualité laïque une pensée un peu trop sèche, précisément, avec peu de symboles et d'images auxquelles se raccrocher. Est-ce que vous partagez cette crainte ?
Je dirais c'est autrement. Je crois que le danger de la laïcité, c'est de tomber dans le laïcisme, c'est-à-dire dans une certitude finalement. Nous sommes les bons, nous sommes les meilleurs. Les autres, c'est des demeurés, les croyants, c'est des faibles d'esprit. Mais nous, nous avons la raison, nous avons les lumières. Et qu'est-ce qu'une lumière s'il n'y a pas d'ombre ? Donc j'aimerais bien réintroduire la part d'ombre dans la lumière. Si elle est aveuglante, elle prive même de la connaissance.
Mais quand vous parlez de la part d'ombre, ça nous fait immédiatement penser, bien sûr, à la notion du bien et du mal. Comment est-ce transposable pour vous ?
Ah non, je ne pensais pas du tout à ça. Je pense que... c'est très compliqué comme question. Je crois que le mal existe et que le bien est inventé. Il y a une invention du bien. Le mal existe. Alors c'est quoi le mal ? C'est tout ce qui détruit l'homme. Mais alors ça suppose quoi ? Ça suppose ce que j'appelle une quasi-transcendance. Enfin, je vais essayer d'expliquer simplement. Il n'y a pas de transcendance pour moi, mais c'est une fiction.
Il n'y a pas de ?
Il n'y a pas de transcendance d'au-delà. Mais il y a une fiction. Une fiction régulatrice. Je crois que la pensée laïque est une fiction. Les droits de l'homme, c'est une fiction. Personne, on réinvente l'homme au nom de la culture, au nom de la civilisation, au nom d'un humanisme inventé. On invente une façon d'être au monde, à soi et aux autres. D'où une position de faiblesse par rapport à un intégriste. Si je vais dire à un croyant, dur comme fer, votre point de vue est intéressant, mais ce n'est qu'un point de vue, je l'insulte, puisque lui a la vérité. Et qu'est-ce que moi j'ai ? Des approches, des morceaux de vérité, un puzzle, quelque chose d'incomplet, en devenir permanent, tout le temps pluriel, avec des principes d'incertitude et de foi. Et de foi, mais une foi complètement problématique. Mais tout le monde n'aime pas, c'est ce que j'appelle le doute joyeux. Tout le monde n'aime pas la bonne nouvelle. Il n'y a pas de réponse. Voilà la bonne nouvelle. Ou les réponses sont provisoires. Voilà. Et donc vous avez à inventer un sens. Il n'est pas donné. Et l'invention du sens serait un beau programme de la laïcité pourvu qu'elle ne se transforme pas en un sens. Donné non pas par Dieu, mais donné par je ne sais quel imam de la laïcité. Il y a un intégrisme laïque. Ça existe aussi. C'est le danger. Donc, en tant que laïc, attention à ne pas tomber dans une espèce de certitude, de bonne conscience, et de devenir une, non pas une morale, mais un moralisme. Ce qui est évidemment pire que le pire de tout.
Quand vous parliez du religieux qui est si sûr de ses croyances, et que vous disiez que vous aimiez la bonne nouvelle, le doute joyeux dont vous parlez, est-ce qu'une des raisons, à titre tout à fait personnel, c'est une question plus personnelle, une des raisons pour lesquelles vous êtes devenu philosophe, ce serait justement d'avoir eu envie de vous outiller si bien et de vous entourer de tous ces philosophes et de tous ces penseurs pour pouvoir justement contrebalancer une pensée trop faite, trop carrée, trop...
Je voudrais quand même, si j'ai dit ça, je voudrais mettre un bémol. J'ai des amis croyants, par exemple Benoît Lobet, avec qui j'ai écrit un livre qui s'appelle aux éditions Couleur Livre, Labor, Quelle spiritualité pour aujourd'hui ? C'est un chrétien que j'aime beaucoup, comme Pierre Delorgue, qui est un chrétien que j'aimais beaucoup, sont des chrétiens pleins de doutes. Donc, eux aussi ont leurs doutes. Et donc, je ne voudrais pas dire la religion, c'est les certitudes.
Oui, pardon,
non,
bien sûr.
Mais ils s'accrochent quand même. Il y a quand même... Bon, je vous raconte une histoire. J'ai bien connu Michel de Certeau. Et lui, je lui ai dit, est-ce que tu crois à l'incarnation ? Il dit, oui, j'espère. Est-ce que tu crois à la Vierge Marie ? Non, ça, c'est des blagues. Il m'a dit, bon. Est-ce que tu crois à la Trinité ? Construction théologique. Est-ce que tu crois à la résurrection ? On peut l'espérer. Mais tu crois en quoi, Michel ? Il m'a dit, j'entends la voix de Jésus en moi. Eh bien, peut-être qu'il l'entend. Ou bien il est schizophrène, ou bien il entend quelque chose. C'est comme l'amour, très mystérieux. Quand on voit deux êtres qui s'aiment, qu'est-ce qu'elle fait avec lui ? Qu'est-ce que lui fait ? Donc la foi est aussi mystérieuse que l'amour. Et donc ce que j'aime bien chez les croyants, c'est quand ils sont mystiques. Parce qu'un mystique... Il y a une folie, Stulcia, d'ailleurs c'est Augustin et Pascal qui disent « La foi est une folie. Je respecte la folie de la foi. Du moment qu'elle n'est pas mortifère, du moment qu'elle croit qu'elle n'est pas une folie, qu'elle est une certitude, alors tout change. C'est le mot vérité qui ne va pas. Via veritas, je suis la voie et la vérité. Il y a deux mots qui ne vont pas pour un laïc. C'est le mot vérité et c'est le mot pur. » La vérité, c'est au niveau de... Il y a un transcendant, et la pureté, ça veut dire évidemment, le corps est impur, le sexe est impur. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire une une lecture que fréquente chez moi, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Parce que j'ai une petite perversion, je connais bien les pères de l'Église. Et comme ça, quand j'ai un débat avec un chrétien, je peux lui faire étalage de mes connaissances doctrinales.
À chacun ses perversions, on vous écoute avec grand plaisir.
C'est l'article, j'invente pas, 2353 du catéchisme de l'Église catholique. Dernière version. La fornication et l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre. Elle est gravement contraire à la dignité des personnes et de la sexualité humaine naturellement ordonnée au bien des époux ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Naturellement ordonnée. Nature. C'est surnaturel, c'est pas naturel.
Là, c'est moi qui mets un bémol et qui dit que, bien sûr, beaucoup de nos amis croyants
évidemment,
ne suivent pas du tout.
Évidemment, heureusement, il y a des catholiques comme des laïcs.
Absolument.
Mais là, il y a une doctrine qui sans doute sera assouplie. On espère que le pape actuel va peut-être assouplir, on ne sait jamais, va assouplir des choses. Cette doctrine a été cause de nombreux névroses. Ce mépris du corps. C'est Rilke qui dit dans l'être un jeune travailleur, pas l'être un jeune, mais l'être un jeune travailleur, pourquoi est-ce que le péché s'est mis sur le sexe et pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Dieu avec son sexe?
Mais oui, pourquoi?
Pourquoi? Voilà, pourquoi? Donc là, c'est le vitalisme, une laïcité vitaliste. Oui à la vie, oui au sens. Et le sens fait partie des sens. Vie au pluriel. Mais, par exemple, j'ai entendu dire... dans certaines tribunes, il faut vaincre nos passions. C'est une phrase laïque, ça. C'est abominable. Je propose de dire qu'il faut transfigurer nos passions. C'est pas la même chose. Donc, il y a quelque chose de chrétien, un reste de chrétienté chez beaucoup de laïcs.
À ce propos, est-ce qu'on peut dire que la spiritualité laïque, éthique et universaliste, indépendante de toute confession ou idéologie, peut intégrer des éléments qui proviennent de tous les horizons, à la fois culturels, religieux, philosophiques et scientifiques.
Mais oui, justement, c'est ça le pluriel. C'est une sorte de métissage, de œuvre mixte, comme on dit en peinture parfois. Et donc, c'est un ingrédient de différents éléments qui sont très logiques, et d'autres qui sont plus affectifs, d'autres qui sont scientifiques, d'autres qui sont esthétiques. C'est composé avec tous les éléments qui forment notre identité. Il y a un autre élément que je voudrais ajouter, c'est une phrase d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Edmond Jabès, qui est un juif égyptien qui a fait toute son œuvre en France, qui a écrit un livre magnifique, le Livre des questions, et lui dit que c'est à la fois l'appartenance et la non-appartenance. Évidemment, on appartient tous à des sociétés, à des groupes, à des religions, à la laïcité. Mais en même temps, cultivons notre non-appartenance. Ne nous laissons pas enfermer dans des ismes, dans des chapelles religieuses ou laïques. Donc pour moi, c'est un balancement entre l'appartenance et la non-appartenance. Ce qui fait que si vous me demandez quelle est mon identité, je déploierai des identités et pas une identité. Je suis belge, européen, professeur, sexe masculin, père, bon, amant, que sais-je encore,
grand-père,
juif, etc. Mais tout ça à la fois, laïque et pas dans l'aversion des religions, ou des imaginaires, des mythes, puisque pour moi tout est fiction.
Vous nous expliquez bien clairement comment vous vous positionnez. Mais moi, ce que j'ai envie d'obtenir de vous, un peu comme un aveu, c'est comment trouver une imagerie, comment trouver un symbole, comment trouver des images fortes dans la laïcité, comme des symboles auxquels se raccrocher, pour pouvoir alimenter cette pensée, cette spiritualité laïque.
Eh bien, là, je crois qu'il faut se tourner du côté de l'art. Et de nouveau, une belle phrase de Nietzsche, « Nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. » Intéressant.
Oui, intéressant.
L'art, c'est du côté de la fiction. Et il y a une phrase de Mallarmé, « Anonyme et parfait comme une existence d'art. » Existence d'art. Dans ses premiers textes, Michel Onfray a développé ça. Faire de sa vie une œuvre d'art et de celle des autres. Donc une construction, c'est une construction. C'est pas une donation. La religion est une donation. La laïcité est une construction. La conscience est riche quand elle est alimentée par différents éléments de tout ordre, scientifique, esthétique, littéraire, sociologique, tout ce qu'on veut, politique. Et donc, à partir de ces ingrédients, construire quelque chose pour soi-même et avec les autres. Et c'est évidemment fondamental, c'est le rapport à l'autre qui n'est pas instrumentalisé. C'est Lévinas qui explique très bien. Il n'est pas ramené à une totalité qui nous dépasse, religieuse, politique, idéologique, et il n'est pas ramené à un moi égoïste qui fait de l'autre un objet. Donc c'est laisser l'autre dans son étrangeté radicale. Je ne connais jamais l'autre. C'est pour ça que je n'aime pas la phrase de Socrate, connais-toi toi-même. On ne se connaît jamais soi-même. Et on ne connaît jamais l'autre. C'est infini. Connaissance infinie, en route, en chemin, work in progress. Ce n'est pas un symbole, mais c'est une démarche. C'est une démarche difficile. Et je comprends quand un homme et deux femmes n'ont pas envie de la suivre. On a tellement besoin de certitude. On a tellement besoin de réponses. Toute réponse devient une nouvelle question. J'abaisse encore. On construit un socle en marbre pour la réponse, mais pour la question, c'est un socle de sable. Eh bien, j'aime beaucoup l'effondrement de la statue en sable. C'est joyeux, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être profondément triste.
Ou très angoissant.
Ou très angoissant.
Très angoissant, oui. Jacques Saucher, est-ce que vous pensez que si la laïcité veut trouver sa propre spécificité spirituelle, elle doit réfléchir non pas par rapport à la religion, mais qu'elle doit proposer une conception originale en s'éloignant du modèle du symbolisme religieux? Je sais que je vous ai posé la question un peu de la même façon, mais j'y reviens.
Oui, mais je crois d'abord que le combat de la laïcité est quand même un combat contre toutes les formes d'oppression qui existent beaucoup de la part d'idéologie ou de la part du religieux.
Oui,
il y a un combat,
parle...
il y a un combat laïque. Il existe.
Oui, mais là, on parle de la spiritualité de laïque et comment on la conçoit.
Écoutez, c'est difficile à répondre. Elle est vraiment plurielle. Moi, je crois que la laïcité, c'est une aventure de vie. Mais chacun a son type d'aventure. On peut se retrouver dans des aventures, dans des groupes. C'est aussi une solidarité qui est importante. C'est être avec, c'est avoir le goût de l'autre, le goût des autres, quel qu'il soit. Et si vous permettez, c'est surtout, c'est le plus difficile, ne pas avoir de jugement. C'est très compliqué de ne pas avoir de jugement. C'est pas pour ça qu'on ne pense pas quelque chose. Je peux penser que c'est pas bien, que c'est pas ça. Mais un jugement est toujours un jugement moral. Avec la limite, bien entendu, des gens qui veulent nous écraser, qui veulent nous détruire. Tout ce qui se passe maintenant dans les intégrismes, sous l'intégrisme maintenant en Syrie, en Irak, c'est épouvantable, évidemment. Et donc, les fous de Dieu sont dangereux. Mais il y a d'autres fous. Hitler n'était pas un fou de Dieu.
Staline
non plus. Donc attention, c'est tous les intégrismes. Il ne faut pas minimiser celui qui se passe maintenant, loin de là. C'est un voie perpétuel. On a une telle tendance à être rassuré, à dire « c'est ça ». Voilà. Donc il y a une joie de la remise en question perpétuelle, mais aussi politique, contre une société la plus juste possible, la plus respectueuse, la plus tolérante. Mais la tolérance est très compliquée. Supposez que je dis « j'ai la vérité ». Comment serais-je plus tolérant? L'autre, c'est un pauvre type, enfin, ou un ignorant, ou quelqu'un. Je dis à quelqu'un, je suis athée, et on a envie de me donner 20 euros, quoi. Il te manque quelque chose, il ne me manque rien du tout. Dieu ne me manque pas. D'où la belle phrase d'Antonin Artaud, faire sans Dieu, régner la santé. Belle devise pour la laïcité.
Oui, effectivement, on pourrait l'adopter. Dans son ouvrage « Le sacré et le profane », Mircea Eliade parle d'un temps circulaire pour l'homme religieux, c'est-à-dire d'un temps, une sorte d'éternel présent mythique que l'on réintègre chaque fois par le truchement des rites, des fêtes religieuses, chaque année aux mêmes dates, etc. Et puis, il fait un comparatif avec le temps pour l'homme non religieux, pour lequel il existe une seule sorte de temps. Que vous inspire cette réflexion?
Pour le religieux, il y aurait une seule sorte de temps.
Non, pour le non-religieux, une seule sorte de temps. C'est le temps réel, avec les grands moments de sa vie.
Non, moi je dirais,
notre temps à nous.
Je dirais c'est d'une façon différente, un peu de Leusienne. Nous sommes dans l'immanence. Il n'y a que ce temps-ci, il n'y a que cette vie-ci. Pour remonter à Épicure et à Lucrèce, carpe diem, qui ne veut pas dire faire bombance, c'est à dire... saisir l'instant présent, avoir le sens du présent. Il n'y a que cette vie, il n'y a pas de seconde session. Voilà la bonne nouvelle. Tout se joue maintenant.
Ah, c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait pas de seconde session.
Très bonne nouvelle. Non, pas pour les étudiants peut-être, mais dans la vie,
bien entendu.
Il n'y a, a pas de l'au-delà.
Il n'y a pas de répétition, c'est maintenant.
Et alors, dans des religions intégristes, c'est le culte des morts, le culte des martyrs, l'envie du paradis. Bonne nouvelle, il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de purgatoire. Tout ça, c'est une plaisanterie de mauvais goût.
Oui, la vie est à vivre. Oui,
la vie est à vivre ici, avec les autres. Oui. Avec tous les autres, si possible. Sauf ceux qui menacent, justement, l'altérité et l'identité. Au nom d'une fiction dangereuse. Parce qu'elle se prend pour une vérité.
La vie est à saisir maintenant, on a bien compris cette idée. Et il est vrai que vous nous donnez de vous-même une image d'un homme très actif, à la fois professeur émérite, acteur, dramaturge, directeur du théâtre de poche.
Écoutez, c'est difficile à dire. Je crois que l'intensité n'est pas 24 heures sur 24. Mais si on peut avoir quelques moments d'intensité, où est-ce qu'on les trouve, l'intensité de vie, où on sent qu'on vit, qu'on est très vivant, c'est dans l'amour, dans la sexualité, c'est dans, pour moi, l'écriture et la pensée, c'est dans l'amitié, c'est dans le rapport avec les autres, dans le vrai lien politique où on est avec les autres, où on essaie d'aimer les autres, quels qu'ils soient. J'ai pas beaucoup d'amis intellectuels. J'avais un ami marchand de fromage, j'ai un ami qui est diamantaire en Versoix, j'ai des gens qui n'ont pas ma culture. Je préfère dîner avec des gens où on ne parle pas de philosophie, de boutique, et qui sont vraiment dans un univers très différent du moi. Donc il faudrait cultiver une qualité, je crois, qui est la curiosité. Non seulement scientifique, mais être curieux des autres.
Vous nous parliez du goût des autres, d'être avec, et de l'aventure qu'est la vie. Je pense que ce sont de beaux mots pour finir en beauté ces 26 minutes que vous nous avez fait le plaisir de passer en notre compagnie. Jacques Secher, merci d'avoir été parmi nous. Avant de nous quitter, voici deux informations. À l'occasion de son 150e anniversaire, la Ligue de l'enseignement pour l'éducation populaire, LDE, vient de publier deux ouvrages consacrés à Alexis Leuys. Alexis Leuys, c'est cette grande figure, cette grande personnalité de l'éducation nouvelle en Belgique. Décédé en 1939, il a joué un rôle moteur dans le projet de l'instruction publique et de l'école primaire gratuite et obligatoire durant la seconde moitié du 19e siècle. Il fut aussi le fondateur et le directeur de l'école modèle de Bruxelles et l'un des piliers de la Ligue belge de l'enseignement. Le Centre d'action laïque de la province de Namur vous propose une conférence débat au Centre hospitalier régional de Namur. C'est le mercredi 15 octobre de 9h30 à 12h30 avec un accueil café croissant dès 9h. Les stéréotypes sexués, source d'aliénation quotidienne et inconsciente, c'est une intervention de Marie-France Zico. Et nous avons une deuxième intervenante qui est Françoise Goffinet qui nous parlera du bien-être au travail, santé et sécurité, sans égalité des femmes et des hommes, et gestion égalitaire des temps. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.